Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est beau micro. On va... Il y a un truc qui marche pas. Hop. Bon, on va trouver. Bref, il y a un petit souci technique, mais c'est pas grave, on va pouvoir lancer le générique dans quelques instants et on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, c'est parti.
Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgence, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Venez par suite-moi ici!
Juste en! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. Désolé pour ce démarrage en fanfare, il y avait un petit truc qui tournait en fond sur le PC, et du coup, bah voilà, il y avait un petit air de Brazil sur mon générique, mais c'est pas grave. Ça va un petit peu avec la chaleur extérieure. Personne me dira le contraire, puisque même si ça s'est rafraîchi, je peux vous assurer que dans le studio, on a un petit côté bocal sauna qui fonctionne plutôt pas mal. Ce soir, on va parler de plein de choses. On va parler de musique, on va parler d'adolescence, on va parler d'amour, on va parler de... Je sais pas de quoi ça parle, ça, en fait.
Post-apo.
Je ne sais plus parler. Dystopie post-apo. Vous rendez bien compte que je ne suis pas tout seul, je suis avec Fabien. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez nous retrouver directement sur YouTube, en direct, ou interagir avec nous sur le chat de la radio, www.radio-g.fr, onglet chat. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir, parce que c'est toujours un plaisir de le recevoir, d'avoir avec nous Benoît Vieillard. Bonsoir Benoît.
Bonsoir, tout le monde va bien ?
Ouais, je pense. C'est comme les gens vont pas forcément nous répondre tout de suite, on le saura peut-être après. Si vous avez envie de poser vos questions à Benoît pour la sortie de son album La Légende de Bonnie and Clyde, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages directement sur le chat. On transmettra les questions à Benoît. Voilà. Quoi dire de plus à part qu'il fait super chaud. Le message l'ai déjà dit. Et puis on va pouvoir commencer directement avec les news qui ont été concoctées par Florence. Alors ce soir Florence n'est pas là, Bruno n'est pas là, Fabien assure quand même son...
Pour une fois c'est moi qui suis là.
Ouais. Mais c'est, non, t'as épuisé tout ton quota de vacances.
Ouais, c'est vrai, j'ai plus le droit maintenant, c'est terminé.
T'as plus le droit. Allez, on est parti pour les news. D'ailleurs, Benoît, si jamais tu vois dans les news que j'annonce des endroits où tu es, n'hésite pas à intervenir et dire bah, « venez me voir », parce que vous voulez voir plein de choses.
Ok.
Voilà. Il faut que tu parles bien dans le micro, un petit peu comme moi. N'hésite pas à bouger le bras si tu as besoin pour pouvoir être le plus à l'aise possible. C'est fait pour. Alors, Festival interplanétaire de bande dessinée de Reims, ni plus ni moins. Les 6 et 7 juin se tiendra le Festival interplanétaire de bande dessinée à Reims, dans la Marne, dans la salle de spectacle Le Temps des Cerises. L'entrée est gratuite, sauf pour certaines animations en marge du festival. L'événement mêle spectacle, rencontres, animations et expositions mettant à l'honneur les artistes du 9e art. Une trentaine d'auteurs et autrices sont attendus, dont Edmond Baudouin et Riff Rebs. Parmi les animations proposées, vous pourrez assister à des ateliers radiophoniques et des sérigraphies, ainsi qu'à des battles de dessin avec des initiations à l'aquarelle. Le 6 juin, pour clôturer la première journée du festival, Radio Grassland fera des reprises de rock au son de l'accordéon et de la guitare. NERAC, le programme estival à partir du 5 juin et jusqu'au 30 août, l'association Les Amis d'Yves Chaland proposeront de nombreux rendez-vous d'animation, de visites commentées régulières et d'ateliers pour le jeune public autour de l'exposition estivale « Le ciné s'affiche en BD ». L'objectif de cet événement est de donner un coup de projecteur sur la production d'œuvres graphiques du 9e art pour le cinéma et le cinéma d'animation. Une cinquantaine d'affiches, de projets, de storyboards sera présentée à la Galerie des Tanneries. Vous pourrez donc admirer des œuvres de grands noms de bandes dessinées comme Enki Bilal, Jacques Tardy, Christophe Blain ou encore Loustal. La visite inaugurale se tiendra le 13 juin et l'entrée est gratuite. Le Festival BD d'Albi du 6 au 7 juin 2026 se tiendra la troisième édition du Salon de la BD à Albi au musée La Pérouse et à l'hôtel Mercure de la ville. L'entrée est gratuite et le thème est La Pérouse et les ailleurs. Il y aura des expositions, des ateliers sur les nœuds marins et des séances de dédicaces. Est-ce qu'on ligotera les gens avec des nœuds marins pour leur faire faire des dédicaces? Je ne sais pas. Une douzaine d'auteurs sera présent pour les moments d'échange autour de la thématique du voyage en lien avec La Pérouse, le célèbre explorateur. Également, les rendez-vous de la bande dessinée à Amiens, 30e édition de ces rendez-vous de la bande dessinée à Amiens, qui depuis 2018 dure un mois, et cette année, ce sera à partir du 6 juin. C'est dans les Halles Fraissinet, au bâtiment de 8000 m2, qui est situé dans le quartier de la gare d'Amiens, que vous pourrez admirer de nombreuses expositions, dont la plus grande, celle sur les 80 ans du personnage, Lucky Luke. L'invité d'honneur sera Émile Ferris et parmi les auteurs, on retrouvera Hiro Mashima. Tu vois, Émile Ferris, très cool. Tu vois, Benoît ?
Non, pas du tout.
Moi, ce que j'aime chez les monstres, c'est...
D'accord.
Magnifique. Et puis, Hiro Mashima, l'auteur de...
Fairy Tail.
Bravo.
Ouh là là, 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 j'étais pas préparé.
T'étais pas préparé.
Alors là, j'ai
une pression. Il y a une lueur de panique dans ton regard.
Voilà. Ça va, c'est revenu vite celui-là.
Et pour finir, le festival BD Oléron, du 8 au 14 juin, le festival BD Oléron revient pour sa deuxième édition avec un programme encore plus riche que sa première, tant mieux. Et il se déroulera avec plusieurs communes de Lille sur un tour des villages du 8 au 12 juin. Le festival s'installera du 12 au 14 juin à Dolus d'Oléron. 25 auteurs et autrices seront présents pour faire vivre la bande dessinée à travers rencontres, échanges et séances de dédicaces. Et ben voilà, c'est pas mal, c'est tout pour l'agenda. J'ai pas des news, c'est de l'agenda surtout. Mais voilà, des choses où tu iras, Benoît, ou pas? Non.
En fait, là, je vais dans aucun festival donc tu annonces.
Ok.
Donc, ça me frustre un peu finalement.
Et ben, on transmet aux organisateurs que Benoît aurait bien aimé être invité.
Et sinon, tu vas nous annoncer ceux où tu es. Peut-être.
Alors là, oui, je vais faire une tournée la semaine prochaine. Alors là, c'est plutôt des libraires.
Parle bien dans ton micro.
Ah, pardon.
Voilà. Sinon, ça t'entends pas du tout. C'est dommage.
Oui, donc oui, la semaine prochaine, je fais une grande tournée pendant 4 jours en fait sur Paris.
Ok.
Donc alors là, c'est des libraires. Donc je fais une tournée de libraires parisiens. Et après, je vais faire un festival à Landerneau.
Ok.
Alors par contre, j'ai pas mon listing. Je sais pas la date précise. C'est peut-être. C'est courant juin.
Ok.
Alors, faut savoir qu'en France, il y a aussi beaucoup de festivals tous les week-ends, et même des fois 2 à 3 festivals par week-end. Donc, on peut pas être partout en fait.
Ouais. À moins d'être plein.
Oui. Alors après, effectivement, comme ma sortie était en mai, je fais quelques dates courant juin, et je vais en avoir en septembre. Mais après, effectivement, faut savoir qu'en juillet, août, ça se calme un peu au niveau festival. Il y a un petit peu, je pense que les organisateurs pensent aux vacanciers, donc les gens sont pas forcément toujours dispo pour aller en festival, en tout cas de BD. Donc après, moi, je repars aussi en tournée aussi en septembre. Quelques tournées, parce que c'est pareil, j'aime en faire plus, mais c'est toujours pareil. Il faut qu'on m'invite.
Il faut voilà.
Attention,
le message est lancé. Je cherchais mon mot. J'ai dit l'invitation est lancée, mais oui, c'est ça.
Oui. Bon, en général, les invitations c'est un an avant, donc c'est un peu tard pour cette période-là. Mais je pense qu'il y en aura d'autres plus tard. Oui.
Ça devrait bien se passer.
Le temps que les gens lisent les livres, tout ça, qu'il y a un engouement qui se fasse pour la nouveauté. Des fois, il y a un petit décalage, quoi. Voilà.
Il faut prendre le temps. Avant de parler de ton album, on va parler un petit peu de d'autres petites choses. Et puis voilà. Fabien, jeunesse ou pas jeunesse, ton album ou pas?
Non, pas jeunesse.
Pas jeunesse.
Non, pas. Okay. Pas spécialement.
Pas problème. Moi, je vais commencer avec deux trucs. Le mec, il est tellement méchant avec les bouquins dont il parle. Il appelle ça des bouquins. Super. Je vais commencer avec une autrice que je suis depuis son premier album, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, voire peut-être 20. Elle s'appelle Ileana Surducan et elle est d'origine roumaine, si je ne me trompe pas. Elle l'a sortie aux Aventuriers d'ailleurs, Le Dimanche Perdu, qui est une réadaptation d'un conte existant. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle travaille sur du crayon de couleur et que il y a toujours beaucoup de couleurs, beaucoup de variétés, beaucoup de matières. C'est souvent très lumineux. Il y a plein de... Enfin, Benoît, il va pouvoir aussi argumenter si jamais il voit. Mais moi, c'est toujours un trait. Elle a un trait qui est assez rond, assez caractéristique, qui est différent un petit peu de ce qu'on peut avoir l'habitude, même si chaque artiste a son trait. Et je trouve qu'il y a une particularité très enfantine, mais en même temps assez mature. Et elle a toujours des couleurs qui claquent vraiment bien. Là, c'est un petit peu moins pétant et un peu moins saturé que sur les albums précédents, mais j'aime beaucoup en fait ce qu'elle fait. Et là, en fait, on suit l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un monde où il n'existe pas de dimanche. Il y a le loup du lundi, le loup du mardi, le loup du samedi, et une fois qu'on a fait le tour, eh ben on retourne sur le loup du lundi. Et un jour, elle se dit, mais moi j'aimerais bien quand même avoir un dimanche, quoi, ça me reposer un petit peu. Qu'est-ce qui se passerait, quoi? Et elle décide d'aller dans un puits qui, selon une légende, permettrait de rencontrer le loup du dimanche qui serait prisonnier d'une sorcière. Et dans ce puits-là, elle va rencontrer une autre jeune fille qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, sauf que cette jeune fille, elle vient d'un monde où tout est beaucoup plus facile. Ce que je trouve génial, c'est que, alors, ça, c'est le cahier graphique à la fin qui permet de, enfin, le cahier d'explication qui permet de vraiment le comprendre, c'est qu'on est sur un conte qui a déjà été retravaillé une fois, retravaillé une deuxième fois, et Ileana retravaille une nouvelle fois ce conte à sa manière, et elle explique vraiment comment elle a travaillé ce conte, pourquoi elle a choisi d'utiliser des loups, pourquoi, et je trouve ça vraiment très très bien parce que tous les éléments du conte fonctionnent, même si on sait pas que c'est une inspiration d'autres contes, on peut deviner toute la trame du conte avec la morale, avec le dénouement, et tout marche ultra bien, et ça, on passe un excellent moment. Il y a plein de grandes pages, alors, où la narration est un peu plus éclatée, puisque bah, du coup, on n'a pas de case dessus, on a juste une illustration par page. Mais ce qui fait qu'on pourrait imaginer plutôt un livre pour enfants, sauf que non, on est vraiment sur une bande dessinée dont la narration n'est pas trop cloisonnée. Et je trouve quasiment toujours en fait ces albums super cool, et celui-là, le fait que ce soit sous la forme d'un conte, marche vraiment, vraiment très bien. Et graphiquement, bah voilà, moi je trouve ça absolument absolument terrible, parce que terrible dans le bon sens, hein, je précise, parce que il y a beaucoup de lumière, il y a des traits de crayon, je sais pas, ça doit être du crayon gras ou même peut-être qu'au numérique c'est faisable maintenant, hein, mais si tu parles pas dans ton micro, on t'entend pas du tout, hein, Benoît.
Je dis c'est sûr, mais c'est vrai que je vois, c'est des cases ouvertes en fait, c'est des, ouais. Chaque page c'est une illustration à part entière, et je trouve ça, en tout cas, ça donne envie de lire le livre, en tout cas. Tu l'as tellement bien raconté.
Ben en vrai, moi je l'ai découvert avec un premier album qui s'appelait Le Cirque, où on suit un dresseur de chaises dans un cirque, et j'ai trouvé ça, alors sans dénigrer le travail, sans le rendre, mais d'une mignonitude géniale en fait. C'était un petit ouvrage et tout allait bien, il y avait une bonhomie, plein de bons sentiments, on ressortait en étant très bien, très zen, parce qu'on avait passé un excellent moment. Et voilà, je saurais pas dire si c'était parce que l'album était très bien fait, est-ce que c'est parce que c'était super beau, mais moi je suis ressorti de cet album-là détendu, et à chaque fois que je lis un album d'Ileana Surducan, c'est le genre de sensation que j'ai à la fin. J'ai passé un très bon moment et je suis zen. Et c'est très cool, je trouve.
D'accord. C'est du positif.
Ouais, c'est que du positif. Et en vrai, ça passe très bien. Et là, vous pouvez y aller sur du jeune public à partir de 6-7 ans en lecture accompagnée, ça passe sans problème. Donc voilà. Je vous redonne les références, c'est le Dimanche perdu d'Ilana Surduquin, c'est aux Aventuriers d'ailleurs. Ce n'est pas un service de presse, je fais cette chronique de mon plein gré, mais je suis pas très objectif, je préfère être honnête. de quoi on garde pour la fin, Fabien, si
comme
tu veux.
Comme tu préfères, pas
eh
d'importance.
Ben, je te garde pour la fin.
Ça marche.
On va faire de la progression, on va parler d'adolescence maintenant, après avoir parlé de jeunesse, avec Mon adolescence explosive. J'en ai pas déjà parlé, rassure-moi.
Non, t'en as pas déjà parlé.
Mon adolescence explosive de Tao Nohara, publié aux éditions Doki Doki. Comment expliquer cet ouvrage? Parce que c'est un petit peu étrange, soyons honnêtes. On suit l'histoire d'une jeune fille qui vit avec son père, on sait pas ce qui s'est passé avec la maman, le papa se rend compte que sa fille vient d'avoir ses règles pour la première fois. Il commence à vouloir en discuter, sa fille, ça l'énerve un petit peu, et on va très vite se rendre compte que quand elle s'énerve un petit peu, il se passe des trucs qui devraient pas se passer, et qui sont pas forcément liés aux règles, hein. Ça peut être un peu bizarre. Et du coup, elle semble avoir des pouvoirs psychiques un petit peu à la tête sous eau dans Akira, qui lui fait saigner du nez, plutôt la Stranger Things, hein, soyons honnêtes.
C'est Carrie en fait, non?
Ouais, il y a un petit côté Carrie. On sait pas trop pourquoi. On n'a pas vraiment d'explication sur le pourquoi de ses pouvoirs, mais elle va se rendre compte qu'elle n'est pas toute seule à avoir ce type de pouvoir. Et elle va, avec son papa, rencontrer d'autres enfants qui ont des capacités. Pas les mêmes, puisque elle, ses pouvoirs psychiques sont plutôt de l'ordre de l'explosion ou le déplacement de choses. Et il y a d'autres enfants qui ont d'autres capacités, hein, qui peuvent se téléporter, par exemple. Et voilà, je vais pas vous spoiler tout le reste parce que on a très peu de réponses en fait sur le tome 1, mais je trouvais ça intéressant en fait de faire ce parallèle entre le changement corporel, les changements psychiques, les troubles que ça peut poser aussi dans son propre corps, et de mettre un peu de fantastique dessus pour que on puisse en parler de manière un peu plus cool peut-être avec ses enfants. Donc ça peut être voilà très sympa. Graphiquement, c'est plutôt cool, même si j'ai tendance à trouver que c'est un peu classique. Alors Fabien, il pourra argumenter, mais voilà, on est sur des... Bah, il faut que je les montre.
Ah oui, il faut
le
montrer. Mais... Non, mais j'ai vu un petit peu tout à l'heure. Ça avait l'air en effet classique. J'ai pas feuilleté plus que ça, mais en tout cas, ça avait l'air d'être bien dessiné, mais sans extravagance,
voilà,
sans chose particulière, on va dire. Mais ce qui n'est pas forcément un défaut, après...
Non, voilà, il n'y a pas besoin de faire des trucs complètement fifous pour que ça marche bien. Hein. Là, ça fonctionne bien, les personnages sont caractérisés, sans être complètement absurde ou complètement surcaractérisé. Et ça fonctionne bien. Il y a des petits gags sur des gens qui croient qu'il y a un garçon alors que c'est une fille, et puis ainsi de suite, mais bon, voilà. Donc plutôt cool, plutôt sympa, support à discuter avec vos ados d'autres sujets. Donc voilà, pourquoi pas.
Okay.
Ce n'est pas un service de presse, je tiens à le préciser aussi. Donc
c'est à suivre, c'est ça?
Ouais, c'est à suivre. J'ai pas regardé combien il y avait de tomes. C'est une erreur de ma part, mais voilà, j'aurai le temps de le refaire après.
À 150.
Non, je pense pas, parce que souvent c'est des petites séries, mais ça c'est plutôt, je sais pas. J'en ai aucune idée. Voilà. Bon, on vous le dira, à moins que Fabien ait le temps de sortir son cerveau.
C'est pas gagné. Hein.
C'est pas gagné.
J'essaye.
On vous redit ça juste après. On va faire une petite pause musicale. Et puis après, on va passer à ton album, Benoît.
Okay.
J'ai voulu sortir un peu des sentiers battus. Ah, tu as.
J'ai. Donc, il y en a ces trois en cours au Japon et deux pour l'instant chez nous.
Voilà.
Mais on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Mais il y en a trois.
C'est sorti en quelle année au Japon, si tu as?
Alors, au Japon, toute la sortie, c'est en 2026 le dernier. Juin 2026 le dernier. Okay. Et le tout premier, 2023.
Ouais, donc on les suit de près.
Ouais, donc voilà. En gros, on va en avoir un tous les 6 mois, je pense. Ça va faire, en général, ça fait ça à peu près, quoi.
Eh ben, pas mal. Mon adolescence explosive de Tao Nohara, c'est publié aux éditions Doki Doki. Dans quelques instants, on va parler de La légende de Bonnie and Clyde selon Blanche Bao, publié aux éditions du Tiroir par Benoît Vieillard. Et j'ai voulu sortir un petit peu les sentiers battus. Je voulais pas te mettre Gainsbourg en mode musical. Et du coup, je vais vous mettre une découverte du Johnny Hallyday, qui a fait une chanson sur Bonnie and Clyde. Que je trouvais, ma foi, plutôt cool. Donc on se retrouve tout de suite après Bonnie and Clyde. Alors, c'était en 68, donc si vous ne reconnaissez pas Johnny, c'est peut-être normal. Allez, on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
Tous deux jeunes et beaux, on aurait dit qu'ils étaient les enfants du diable. Bonnie and Clyde, c'est en volant une auto qu'ils se sont rencontrés ce jour fut mémorable. Dans un drugstore, ils ont pillé, pris la fuite. Dans la poursuite, raflant des bagnoles pour mieux se cacher et plus vite. Grandirent en réputation, tant et si bien qu'un jour ils attaquèrent des banques. Les mains en l'air, criaient Clyde en pleine action, pendant que Bonnie remplissait de dollars un sac. Mais un brave homme voulut les arrêter seuls. Ils l'ont laissé dans une mare de sang, échappant de justesse en riant. C'était bien l'ennemi public numéro un. Le FBI au trou s'y riait tous deux comme des gamins. Mais tout au fond d'eux-mêmes, ils savaient bien tôt ou tard que ce chemin l'amène à une fin certaine. On a un blâme dans la prairie remplie de fleurs pour mourir. Venant d'une information, la police tend un piège à lui et sa compagne. Bonnie and Clyde, parmi les détonations d'armes à répétition, sont morts dans la campagne. Bonnie and Clyde, la main dans la main. Bonnie and Clyde, ont trouvé leur fin. Bonnie and Clyde.
Radio G, 101.5 FM.
La légende de Bonnie and Clyde par John Hallyday, ça date de 1968 et on est en 2026. Et on va parler de la légende de Bonnie and Clyde par Benoît Vieillard, par Blanche Barreau. On peut le dire comme ça.
Oui, c'est selon Blanche Barreau.
Parle bien dans ton micro.
C'est selon Blanche Barreau.
Selon Blanche Barreau. C'est-à-dire que c'est un concept cet album, on va revenir dessus dès que tu veux. Hein. Par quoi on commence? Déjà, par de quoi ça parle? Bon, je pense que le titre est assez exhaustif, on va parler de Bonnie and Clyde, le célèbre couple de gangsters, mais on va parler de Bonnie and Clyde par l'intermédiaire d'un personnage qui les a connus, c'est bien ça?
Tout à fait. Donc toi, tu veux raconter ou tu veux que je raconte?
Ah bah c'est quand même mieux si c'est toi qui raconte, parce que au moins je peux pas m'en vouloir de dire des bêtises.
Oui, alors en fait, faut savoir que il y a longtemps que j'avais envie de raconter une histoire de gangster, et je trouvais que Bonnie and Clyde, en fait, en cherchant un petit peu, il y avait pas de BD en fait qui était sorti sur Bonnie and Clyde.
Ok.
Alors peut-être aux États-Unis, hein, ça peut arriver, hein, mais en tout cas en BD franco-belge, il y avait pas eu d'album. Et après tu me connais, moi j'aime bien les concepts et j'aime pas raconter une histoire d'une façon linéaire. Donc je voulais essayer de trouver une approche un peu différente. Souvent en fait j'ai le concept avant l'histoire en fait et je m'étais dit pourquoi pas raconter Bonnie and Clyde à travers les personnages qui les ont croisés en fait, qui les ont côtoyés. Et voilà, en potassant un peu, bah, je suis tombé sur Blanche Barreau, en fait. Bah, Blanche, en fait, qui n'était pas de la famille, elle était, c'était une pièce rapportée. Mais elle s'est mariée avec Buck Barreau, en fait, le frère de Clyde. Et par amour, elle a suivi son mari. Et forcément, les choses sont pas très bien passées, en fait. Parce que voilà, le frère de Clyde était aussi un gangster comme son frère. Elle a essayé de l'extirper. Enfin bref, je vais pas vous raconter l'histoire parce qu'il faut quand même que
faut la lire,
bien sûr. Mais voilà, elle a suivi ce gang par dépit et par amour, mais aussi par dépit. Et ça a été un calvaire pendant 2 ans pour elle. Voilà. Je peux résumer comme ça.
Ouais, c'est plutôt bien résumé, même si toute l'histoire n'est pas là, puisque comme tu le disais, c'est
oui.
Bonnie and Clyde vu par et il y aura combien de il y a combien de personnages de prévu?
C'est prévu en 3 tomes. Alors, en fait, au départ, je voulais faire 5 tomes, mais ça aurait fait beaucoup. Bah, en tout cas, c'est aussi des points de vue d'éditeur. Mais, oui, là, l'idée, c'était de raconter Bonnie and Clyde à travers les yeux de personnages qui les ont côtoyés. Et bien sûr, des personnages intéressants comme Blanche Barreau, c'était une personne qui était pas du tout dans le côté malfrat.
C'était pas
un gangster. Mais puis après il y aura donc un deuxième tome, ça sera sur Henry Medvin. Donc c'est un autre gangster, en fait c'est plus jeune membre du groupe. Parce qu'il faut savoir Bonnie and Clyde, en fait, ils ont pas mal tourné au niveau gang, en fait. Il y a eu pas mal d'allées et venues au niveau des membres du gang. Et donc Henry Medvin, en fait, a été un des derniers en fait à rentrer dans le groupe. Et il raconte aussi son histoire. Alors, bon, là je suis en préparation, je suis en plein storyboard. Mais ça sera aussi une histoire de famille parce qu'il était très lié avec son père, donc on va avoir aussi le père d'Henry Medvin. Et voilà, on va être vraiment dans le côté familial et protecteur aussi du père par rapport à son fils et par rapport à ce gang. Et puis le troisième tome, ça sera, alors là on sera du côté de la loi, en fait, du côté de la police. Donc ça sera Bonnie and Clyde Frank Hammer, voilà, cherchez le nom. Frank Hammer, en fait, qui est l'un des Texas Rangers qui a arrêté le couple, bah, voire même qui les a tués parce que
bah, c'est fini en grosse fusillade.
C'est fini en grosse fusillade, voilà.
De toute façon, voilà. C'est comme le Titanic, hein, on sait comment ça finit.
Voilà. Certains diront, mais pourquoi lire ce livre, on connaît la fin, mais en fait, c'est pas là le propos. En fait.
Ça peut vous donner un autre point de vue sur des personnalités qu'on connaît pas forcément. Moi, c'est ça qui m'a choqué, c'est que Bonnie and Clyde, j'avais une aura fabuleuse de méchant iconique. Et je me suis rendu compte en le lisant que je connaissais absolument rien, en fait, des personnages. Moi, j'étais persuadé que Bonnie était une fumeuse de barreaux de chaise, alors qu'en fait, non.
Non.
Que c'est surtout la presse qui l'a mise en avant comme ça. Et c'est intéressant, c'est hyper captivant, en fait, de comprendre comment fonctionnaient ces personnes-là par l'intermédiaire du point de vue de quelqu'un d'autre.
Alors donc c'est vrai que faut savoir à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il y avait la presse, il y avait les journaux, et donc les gens suivaient d'une façon très assidue leur périple, cette cavale, en fait, parce qu'en gros pendant 2-3 ans il y a eu une grosse cavale sur Bonnie and Clyde, parce que ils n'étaient pas du tout organisés, en fait, c'était un gang par rapport à d'autres, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque il y avait la crise de 29, et juste derrière, en fait, il y a eu beaucoup de gangsters qui sont développés, parce que forcément dû à la crise c'était la misère, donc il y en a pour certains la solution facile, on va dire, c'était de braquer des banques. Et donc il y avait des gangs vraiment plus organisés, comme notamment Al Capone. Là c'était plutôt la mafia, mais il y avait une grosse organisation derrière Al Capone. Mais eux, en fait, ils étaient un peu, même aux yeux des autres gangsters, ils étaient considérés comme des parias, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que malgré ça, en fait, ils étaient quand même très suivis par la presse et très suivis par le peuple, en fait, parce que bah, les pauvres gens qui souffraient de la crise, ils les voyaient un petit peu comme, et ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, ils les voyaient un peu comme des Robin des Bois des temps modernes, en fait.
Oui, sauf qu'ils
même prenaient... s'ils donnaient pas l'argent, ils leur donnaient pas de l'argent, mais voilà, il y avait ce côté un peu aura, et en plus. Il s'était mis en avant, il s'était pris en photo, il se prenait en photo avec des postures, avec leurs armes, tout ça. Et alors, le hasard a fait que c'est passé dans la presse, parce que c'est pas eux qui ont diffusé les photos dans la presse. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été plusieurs fois, ils ont failli plusieurs fois se faire arrêter ou se faire tuer. Et bien sûr, à chaque fois, ils partaient en quatrième vitesse de là où ils étaient. Et à un moment donné, la police a retrouvé un appareil photo. Ils ont développé l'appareil photo. Et dedans, il y avait des photos où ils étaient mis en avant. Donc, ils s'étaient mis en avant. Donc, résultat, ça s'est retrouvé dans les journaux. Et donc le cigare dont tu parlais là, il y a la fameuse photo de Bonnie où on la voit fumer le cigare. En fait, c'était elle a fumé le cigare qu'à ce moment-là, quoi, que pour la photo. C'était vraiment pour donner l'impression de d'une femme solide, dure, forte.
Badass, quoi.
Mais voilà, c'est ça. Et mais en fait, elle fumait pas, quoi. Mais après, dans la presse, on disait que c'était la femme qui fume les Havanes, quoi.
Ouais, bon, on lui a mis une image dessus. Je pense qu'on le comprend quand on t'écoute, mais tu t'es renseigné pour voir comment fonctionnait, qui était Bonnie and Clyde et puis comment ça, c'était le contexte de l'époque. Ça fait beaucoup de recherches historiques pour cet album-là, par exemple.
Ça fait beaucoup, beaucoup, mais en fait, à un moment donné, il fallait que je me détache de tout ça parce que c'est quand même une histoire. Alors, d'ailleurs, je précise au début de l'album, c'est que c'est une histoire pour divertir avant tout. Donc, il y a un fond qui est là, les personnages existent. Les actions, la plupart des braquages, tout ça que je raconte sont vrais, mais derrière, après, j'ai enrobé avec un côté un peu plus romancé et plus film d'action, parce que après, bon, vous voyez pas forcément le, bon, c'est la radio, c'est pas évident de montrer, mais j'ai essayé quand même de faire des moments, on va dire sans texte, avec beaucoup d'actions, beaucoup de d'affrontements entre la police et le gang. Parce que au départ, moi, je voulais vraiment faire en plus, j'allais dire film, mais faire une BD où ça bouge en tous les sens et ça canarde, quoi.
Bah là, c'est quand même efficace, hein, ça canarde quand même franchement au goût. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que tu fais l'inverse des films qui disent vous allez voir quelque chose qui est basé sur une histoire vraie. Là, tu fais oui, mais non. Moi, j'ai pas fait ça. C'est pas contre-productif un petit peu?
Non, mais moi raconter l'histoire pour l'histoire ça m'intéresse pas, moi. Je okay. Forcément faire des romans graphiques où on raconte que les faits, c'est pas du tout ma tasse de thé. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus experts que moi. Il faut savoir que Blanche Barreau a écrit un livre. Alors faut savoir aussi que Blanche Barreau c'est la seule survivante du gang. Tout le monde est mort. Alors il y en a qui sont morts juste derrière, après la mort de Bonnie and Clyde, mais des morts étranges aussi, pas naturelles.
Ah.
Et
indigestion de plomb.
Blanche, un peu. Mais Blanche, elle est morte de vieillesse. Elle est morte dans les années 80. Faut le
en
savoir.
En 88. J'ai lu le petit fascicule.
Donc elle s'est remariée, tout ça. Après cette période de gangster, elle a complètement changé de vie. Ben, en même temps, elle a fait 10 ans de prison, hein, donc en même temps, ça a dû la calmer aussi.
je pense, ouais.
Mais après, elle s'est remariée, puis elle a vécu une vie tout à fait normale. Et donc, c'est là où elle a écrit un livre. Donc, c'est un livre que j'ai lu, en fait. En gros, son livre s'appelle Ma vie avec Bonnie and Clyde, en fait. Et voilà. Et il y a eu un autre livre aussi que j'ai lu aussi. Alors, c'est plus des lettres. C'est plus des lettres de la sœur de Clyde et la mère de Bonnie qui échangent, alors entre elles ou avec aussi Bonnie et Clyde, parce qu'il faut savoir que Bonnie et Clyde étaient très très famille. Alors, pas évident, hein, quand on passe son temps à fuir. Donc ils se trouvaient des combines pour essayer de revoir leur famille, parce qu'ils pouvaient pas aller dans leur famille,
oui,
dans
le les maisons, dimanche chez maman, c'est compliqué.
Parce que la police les attendait.
Oui.
Donc ils donnaient des rendez-vous à des endroits bien précis que seuls eux savaient. Mais régulièrement, ils essayaient de se voir, en fait. Et donc c'est intéressant de lire ces courriers aussi. Voilà. Donc je me suis blasé. Alors effectivement, ces courriers-là vont servir. Bon, alors pour le premier tome, c'est plutôt le bouquin de Blanche Barreau qui m'a sur lequel je me suis appuyé. Et puis pour le deuxième tome, ça sera effectivement les lettres de Bonnie and Clyde.
De Bonnie and Clyde qui vont plutôt compter. Aussi.
Voilà.
Ok. L'ouvrage est divisé en plusieurs chapitres. Chacun a sa teinte de couleur. Alors, c'est une des particularités de cet album, c'est que tous les personnages sont en noir et blanc. Et les fonds sont sur des fonds de couleur. ça donne une sensation assez étrange. On voit les différentes périodes, puisqu'à chaque fois, changement de ville, en fait, ça change de colorimétrie. Pourquoi? Explique-toi, s'il te plaît.
Alors, il faut savoir qu'au départ...
Sauf si c'est une question piège. Hein,
non, c'est pas une question piège. Non, mais en fait, il faut savoir qu'au départ, comme beaucoup de BD, moi, j'avais commencé à proposer ce dossier aux éditeurs en couleur. Après, c'est une histoire. Il y a deux choses. Il y a un côté économique, parce que après, c'est une histoire de temps de travail à fournir par rapport aux couleurs. Et il y avait des délais respectés, donc je pouvais pas non plus aller trop loin dans les délais. Donc, à un moment donné, j'avais basculé vers le noir et blanc parce que je trouvais ça. Alors, voilà, il y a cette partie économique, mais il y a cette partie aussi intelligente qui permet aussi de donner un côté plus ancré sur une époque.
Ouais, complètement, ouais.
En noir et blanc, ça rappelait les films en noir et blanc de l'époque. Donc, et c'est aussi pour ça que des moments, il y a pas de texte parce que je me suis dit, tiens, ça peut rappeler aussi les films muets. Mais après, en discutant avec l'éditeur, la difficulté, c'était aussi, il faut aussi capter, un public, un large public. Donc, le noir et blanc, ça peut être bloquant pour certains lecteurs. Donc, il a fallu trouver une solution, pas tout faire en noir, en couleur. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, vu qu'il y avait des chapitres, pourquoi pas faire des teintes différentes, de faire de la bichromie. Donc, vous avez des chapitres, un chapitre en rouge, vous avez un chapitre en sépia, vous avez un chapitre en bleu, un chapitre en rouge. Et alors ça, c'est un truc que j'ai rajouté après avoir fait toutes les planches en noir et blanc. Parce que le noir et blanc, en fait, il faut imaginer, hein, c'est pas le noir et blanc comme dans le manga, par exemple, où il y a juste des traits, le contour des personnages, et puis ça s'arrête là. Moi, le noir et blanc, c'est aussi l'ombrage, la lumière,
c'est des teintes
la matière,
de gris.
Voilà, les teintes de gris, pour donner du volume, du relief.
Ok.
Donc, par-dessus ça, je viens rajouter une teinte dominante, par exemple, du rouge, dans la partie rouge. Et alors après, c'est le choix de la couleur est en lien avec ce qui se passe dans l'action. Par exemple, la partie rouge, c'est la partie là, on va dire un peu plus la plus violente, on va dire. À un moment donné, il se retrouve dans la forêt, donc j'ai mis un peu plus de teinte verte pour voilà rappeler le côté végétal.
Pas juste la forêt, hein. c'est du marécage quasiment, hein, c'est ça.
Oui, j'ai la forêt marécage. Voilà. Et puis il y a aussi une partie, le début et la fin est différente. C'est-à-dire c'est le contour est noir, le contour des pages sont noires, parce que toute l'histoire en fait est racontée par Blanche Barreau, hein, comme depuis le début je vous dis ça, hein, c'est selon Blanche Barreau, donc c'est elle, c'est raconté à la première personne. Donc au début, elle est en prison et elle raconte aux policiers, aux Texas Rangers qui pourchassent Bonnie and Clyde. Parce qu'elle est en prison avant que Bonnie and Clyde soit arrêtée.
Arrêté, ouais.
Donc ils continuent leur cavale alors que Blanche est déjà en prison. Donc Blanche elle dévoile en fait son jeu, elle raconte un petit peu ce qu'elle a vécu. Et donc c'est un long flashback, toute l'histoire, la BD est un long flashback. Et ça sera pareil pour les autres tomes. Ça sera des longs flashbacks.
OK, mais tout le monde commence pas en prison.
Non. il faut changer un peu.
Faut renouveler un petit peu. Est-ce que tu crois que, donc là, pour ceux qui regardent, chaque chapitre commence par une map, en fait, avec une punaise sur le lieu où ça se déroule, et puis tous les fils des endroits où c'était avant. Est-ce qu'on peut qualifier cet ouvrage de road movie?
Oui, tout à fait, ouais. Oui, ouais. C'est un peu ça, j'ai un peu conçu comme ça. En fait, je jongle entre ce côté road movie. En fait, au départ, j'avais vraiment envie de faire un western. Le western, pour moi, c'est pas forcément... Alors, je sais que c'est une période précise, le western, mais c'est aussi un point de vue américain. C'est-à-dire que le côté, les armes, tout ça, il y a un côté cow-boy chez les Américains. Et donc, c'est pas que à l'époque du western, c'est après aussi. Et que en même temps, j'avais un problème, c'est que je suis très mauvais à dessiner les chevaux. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas remplacer les chevaux par des voitures.
Un western donc, avec des voitures. Voilà.
Mais bon, mais effectivement, le côté carte était intéressant parce que effectivement, le périple de Bonnie Clyde, en fait, c'était quand même des traversées sur plusieurs États. Parce qu'il y avait aussi l'histoire et c'était le début aussi du FBI. Alors on le voit pas là, mais on le verra dans le troisième tome avec le Tessa Rangers qui va raconter son histoire. Mais c'était l'origine du FBI à l'époque parce que, le FBI s'est pas développé à cause de Bonnie and Clyde, hein, mais il faut savoir que par état, chaque état a sa police. Et dès qu'un gangster voulait échapper à la police, il sortait de l'état et comme ça, il y a plus de poursuite.
Il y a plus de connexion, il y a
donc,
plus rien.
Donc, la seule connexion qui est possible, c'est le FBI. Voilà.
Ok.
Voilà.
Je rebondis sur le western. C'est un thème qui te tient à cœur parce que déjà dans À l'ancienne, il y avait un côté un peu western, ouais. Sauf erreur de ma part.
C'est ça.
Ok.
Bah en fait, oui, j'aime plein de choses. Hein. Un jour, si j'avais envie de faire, j'ai envie aussi de faire un truc de science-fiction, je le ferai.
Mais avec du western.
Non, mais en fait, je sais bien qu'en BD, on a tendance à mettre les auteurs dans des cases, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une série à succès, l'auteur, toute sa vie, il fait cette série-là. En l'occurrence, il faut être honnête, j'ai pas de série à succès. Donc, moi, j'aime toucher un peu à tout. J'adore la BD en général, hein, plutôt franco-belge. Et donc, j'aime bien diversifier les genres et les plaisirs. Donc effectivement, avant Bonnie and Clyde, j'avais fait une BD plutôt théâtrale avec 13 Devil Street. Je trouvais ça super intéressant et c'est des choses que je vais continuer parce que ça me plaît encore de faire un côté un peu plus théâtral. Mais j'avais aussi envie, et depuis très longtemps, j'avais envie de faire une BD cinématographique. C'est surtout ça, la mise en scène cinématographique, mais quelque chose de plutôt cinématographique version américaine, un petit peu à la Tarantino, un petit peu à la Sergio Leone, avec des grands espaces, et c'est pas que le western en fait, mais c'est vrai que ce côté grands espaces, c'est quand même, à la base, c'est quand même le western, et puis c'est vrai que le western est très cinématographique, mais tu sais, un jour je ferai, on va dire, entre guillemets, un vrai western avec des chevaux, mais il faut que je travaille.
Ok, faut travailler les chevaux. Je pense que t'as peut-être quelqu'un pas très loin de chez toi qui est très doué en chevaux.
Oui.
Un autre Benoît. À la fin de l'album, il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant. Il y a un grand cahier graphique, un cahier qui raconte un petit peu tout ce projet-là avec plein d'infos. J'aimerais bien qu'il y en ait un dans les prochains aussi, ce serait super cool. Et tu nous expliques qu'il y avait des fins alternatives, même des introductions alternatives. Tu avais prévu d'autres choses oui. Pour cet album.
Tout à fait.
C'est pas difficile de devoir choisir des fois.
Si. Alors, comme effectivement, je l'ai précisé en début d'album, là, il y a un petit texte juste en intro qui précise que c'est pas un livre historique. Je fais un petit peu, je tords un petit peu. Effectivement, dans la première fin que j'avais développée, elle était trop loin. Ça allait trop loin par rapport au réalisme. C'est-à-dire qu'on s'écartait un peu de la vérité. Mais bon, je vous parlais de Tarantino. Tarantino, il est le premier à tordre le cou à la réalité parce que quand vous voyez une fois dans l'Ouest, une fois, pardon. Hollywood.
Time in Hollywood,
voilà, c'est ça. Il a tout complètement tordu le cou à l'histoire en fait de ce qui s'est passé réellement. Donc là, moi, j'avais imaginé autre chose par rapport à la fin de Blanche Barreau. Mais le souci, c'est que c'est pas juste un livre. J'ai prévu de faire trois tomes. Donc après, derrière, c'était plus galère de rebondir et de réussir à faire une suite aussi fracassante que la fin que j'avais imaginée au tome 1. Donc je suis un petit peu revenu, j'ai un petit peu reculé d'un pas pour revenir un petit peu plus à quelque chose de concret et de réaliste par rapport à la vraie histoire. Voilà. Et par contre, effectivement, le début. Alors, comme c'est à chaque fois, comme je vous disais, c'est Blanche Barreau qui raconte son histoire. Donc là, dans l'album, elle raconte son histoire aux policiers. Mais j'avais imaginé aussi un début différent, qu'elle racontait son histoire pas aux policiers, mais à Warren Beatty. Alors après, faut connaître le contexte. Hein, et ce qui est vrai, en plus, Warren Beatty l'avait rencontré. Parce que Warren Beatty, c'est l'acteur qui a joué dans l'un, je pense que il y a eu plusieurs films sur Bonnie and Clyde, mais pour moi le meilleur c'est le Bonnie and Clyde de 1963 de Arthur Penn.
Ok.
Et Warren Beatty était producteur et qui était aussi acteur et qui a fait donc il faisait Clyde dans le film et il est avant de tourner il est allé voir Blanche Barreau pour lui demander son aval par rapport au film qu'ils allaient faire. Donc bon là j'ai un peu imaginé cette rencontre.
Tordu un petit peu la réalité.
Et c'est là où elle lui raconte la vraie histoire.
Et elle a adoré ce film-là, si j'ai bien compris.
Pas du tout. tout l'inverse. Tout l'inverse, non.
Parfait. Si le alors c'est pas le Famous Last Word puisque c'est sur la partie jeu de rôle, mais si tu devais pitcher à quelqu'un qui n'a pas du tout entendu l'interview ton album pour qu'il ait envie de l'acheter.
Oh là là.
En quelques secondes.
Oh le piège.
Eh ouais.
Il est pas sympa avec toi là.
Ah non, je suis sympa avec personne là-dessus.
Non, c'est vrai, on a l'habitude.
Tu peux pas le pitcher, toi, t'es très bon. Non, mais je vais le faire.
C'est mieux que ce soit toi. Et dans le micro, c'est mieux.
Alors moi, je vais dire que si vous aimez, je vais faire des références par rapport au film. Si vous aimez les films d'action, les westerns, les films à la Tarantino où ça canarde, où il y a des rebondissements à n'en plus finir, où il y a une cavale, le road movie aussi, il y a tout ça, ça englobe tout ça. Bah là, c'est clair que ce bouquin va vous plaire, et surtout que c'est une histoire vraie au départ. Avec, forcément, vous n'allez pas vous ennuyer. De toute façon, je pense que l'album est fait de telle sorte à ce que, alors forcément, vous allez peut-être rester sur votre faim parce qu'il y a deux tomes, mais en tout cas, ça va être un bon moment un bon plaisir de lecture. J'espère, je l'ai fait comme ça, mais que ça va être quelque chose de, c'est quelque chose de très dynamique. Bon, en plus, mon style est plutôt, on n'a pas parlé du style d'ailleurs. Il faut qu'on parle du style.
Allez, on parle du style.
T'as pas le temps.
Si, on va le prendre le temps, t'inquiète pas. Je vous avais prévu de la musique, mais on mettra pas de musique, c'est pas grave.
D'accord. Parce que moi, j'ai un style plutôt semi-réaliste. Donc, justement, ça peut contrebalancer par rapport à tous les bouquins qui racontent une histoire vraie avec, souvent c'est raccordé avec un dessin plutôt réaliste pour rassurer les gens, mais en fait moi je casse tout ça et j'ai abordé un sujet plutôt grave par le biais d'un dessin plutôt semi-réaliste qui justement permet d'avoir une légèreté par rapport aux scènes d'action et un côté dynamique, j'espère que mon style est dynamique pour que voilà tout ça toutes les cases les unes derrière les autres elles se suivent et qu'on ait du plaisir quoi.
Oui, parce que c'est quand même, alors on l'a pas précisé, mais c'est une histoire violente et tu t'édulcores pas, hein. Il y a de la violence, il y a des gunfights, il y a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Donc voilà, c'est pas parce que le style semi-réaliste peut être accessible à plein de monde que la BD est pour tous les publics.
Mais non, ouais, c'est pas pour les en dessous de 10 ans, c'est compliqué quand même.
Ouais, après ça peut être faut contextualiser, mais ça se joue.
Après,
ça dépend des parents.
Tu vois les jeux vidéo qui se pillent en ce moment.
C'est vrai.
Non, mais bon, après, voilà, c'est aux gens de décider. Mais effectivement, c'est quand même une histoire. Mais la vraie histoire, elle est sanglante, c'est sûr. Donc je pouvais pas effacer ça. Mais après, voilà, du fait d'avoir un dessin un peu décalé, on peut dire. J'espère que ça, les choses seront un peu plus légères. Ça donne un côté un peu plus léger par rapport à ce qui se passe. Voilà.
Parfait. Dernière chose avant qu'on termine avec ton album, où est-ce qu'on peut te retrouver, Benoît, réseaux sociaux, site internet?
Essentiellement sur Insta, sinon sur Facebook, sur essentiellement là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire? En général, je communique quand je pars en dédicace.
Ok.
Donc,
t'es le meilleur endroit pour aller récupérer les infos pour savoir où tu es en dédicace.
Oui, c'est Facebook et Insta. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Oui, alors après, c'est pas forcément toujours du local. Hein. Alors, je traverse pas le pays, mais c'est plutôt le Grand Ouest et Paris. Et même la Belgique, parce que forcément, l'éditeur, oui, j'ai pas dit, mais l'éditeur de Bonnie and Clyde est belge. Donc c'est les éditions du tiroir, voilà.
Ce qui fait qu'il est sorti deux fois l'album. Il est sorti une fois en Belgique en fin d'année, ouais. Et il vient juste de sortir en version française là, d'ici quelques semaines.
Il y a un petit décalage d'édition, mais bon après voilà ça.
C'est les fuseaux horaires.
Voilà, c'est ça.
Et parfait. Merci beaucoup Benoît. Je rappelle que l'album s'appelle La Légende de Bonnie and Clyde selon Blanche Barreau. C'est le tome 1 d'un triptyque qui est publié aux éditions du Tiroir par Benoît Villard. Merci Benoît.
Et merci beaucoup.
Fabien, oui. Je vais te passer la main.
Ça marche.
Et puis je verrai moi si j'ai un peu de temps pour un petit truc derrière. Hop, tu nous parles de quoi Fabien?
Alors, aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'Allegoria. C'est un manga français signé Charlotte Joriot.
Oh, cool.
C'est offert une seconde vie grâce aux éditions Keep on Dream. En fait, pour comprendre la trajectoire d'Allegoria, il faut se rappeler qu'en 2023, le tome 1 était sorti une première fois chez l'éditeur French Mangaka, qui au passage je ne connais pas.
Non plus.
L'aventure ayant tourné court, les éditions Keep on Dream ont décidé de reprendre et de rééditer entièrement l'œuvre. Pour cela, ils ont lancé une campagne de financement participatif. Étant tombé sur ce financement, et j'ai pas mal accroché au pitch, du coup j'ai décidé de soutenir le projet. Et grand bien m'en a pris, j'ai reçu tout récemment les deux premiers tomes d'un coup, magnifiquement édités, et surtout en plus dédicacés par l'autrice, donc bien cool.
Ah ouais, voilà. C'est où?
Tout à la fin. La dernière page, j'ai la dédicace.
Oh.
Voilà, la classe.
C'est pour ça qu'il faut nous regarder sur YouTube aussi. Hein.
C'est
au
ça.
Au moins.
Alors, et sinon, de quoi ça parle? Donc en fait, l'histoire commence sous terre. On y suit Éléonore, une jeune femme enfermée dans un bunker. On lui répète en boucle que la surface de la Terre est ravagée, inhabitable. Et la matriarche du lieu, Madame Yano, exige d'elle qu'elle assure la descendance de sa lignée. Mais Éléonore refuse ce destin dicté. Convaincue qu'on lui ment, elle se rebelle, brise les règles et réussit l'impensable, s'échapper à la surface. Sauf que le bunker n'est que la partie introductive de l'œuvre. Le vrai choc d'Allegoria arrive quand Éléonore ouvre les portes. Dehors, le monde est tout à fait vivable, mais il est terrifiant. La société de la surface est contrôlée d'une main de fer par une poignée de familles surpuissantes et une armée ultra brutale. À leur tête, les allégories. N'allez pas imaginer des monstres fantastiques. Ce sont des humains, à l'apparence totalement humaine, mais qui ont évolué. Puisqu'on n'est pas à notre époque, mais on est entre 2100 et 2900. Je dis pas plus, pour pas trop spoiler le truc. Donc du coup, ils ont évolué et ils possèdent quelques pouvoirs, on va dire, donc une force démesurée, une régénération accélérée, voire même plus qu'une régénération. C'est-à-dire qu'une balle dans la tête, il y en a certains qui peuvent survivre.
Donc, ouais,
on est un
d'accord.
peu au-delà de la régénération même. Et certaines capacités surnaturelles qui sont propres à leur allégorie. Je vais pas vous en dire plus sur ce terme, je vais vous laisser le soin de découvrir en fait en quoi ça consiste exactement. On en apprend un petit peu au fur et à mesure du tome 1 sur ce que ça peut être, ces fameuses allégories. D'où tire le titre du manga d'ailleurs. Et donc face à ces êtres d'élite, le reste de la population, en fait, qui est composé d'humains tout à fait normaux, est totalement soumis à leur violence et au diktat de l'armée. Ça rappelle un peu une période un peu sombre qu'on a vécue il y a quelques années de ça.
Oui.
Et ouais, on est un peu là-dessus quand même. Et donc, Éléonore se retrouve jetée au milieu de ce panier de crabes, hein, le mystère s'épaissit en plus, d'autant plus que dans ce monde dont elle ignore les codes, puisqu'elle sort de son bunker, ses tyrans semblent déjà savoir exactement qui elle et sa lignée. Donc, arrivera-t-elle à survivre et à démêler le vrai du faux? En fait, ça va être une quête un peu d'émancipation de son côté, sous haute tension, de découverte d'un nouveau monde qu'elle ne connaît pas finalement. Côté graphisme, le travail de Charlotte Joriot est d'une grande finesse, et gagne pas mal en intensité au fur et à mesure. L'autrice réussit magnifiquement à retransmettre l'humanité, mais aussi la froideur et la cruauté à travers des regards très expressifs. Le contraste visuel est saisissant. On passe des décors fermés au départ et géométriques du bunker à de la grandeur de la surface où la violence de l'armée et des allégories éclatent à chaque démonstration de force. Comme ces êtres ont des traits humains, toute la subtilité et la tension du dessin passent par leur charisme et la mise en scène. Si j'avais une légère petite critique à donner de mon côté, ce serait un peu les décors que je trouve trop peu présents. Mais bon, l'autrice travaille seule au dessin et au scénario avec un laps de temps qui peut être assez court des fois. Donc du coup, elle peut pas pousser tous les détails à fond, je pense. Mais les traits, en tout cas, sont là et le dessin est vraiment agréable. Ça reste vraiment une réussite.
Même si sur certaines pages où on a du décor,
oui,
c'est
soit on a l'un, soit on a l'autre. On a souvent certaines scènes où on va avoir du blanc. On a plus de décors, je trouve, au début, quand elle est dans le bunker, et peut-être un peu moins après. Ça va dépendre des planches.
Ok.
Mais par contre, je trouve graphiquement, ça reste une réussite. L'édition de Keep on Dream, je la trouve vraiment très sympa. Même rien que la jaquette a vraiment un effet, un rendu très chouette, avec cet effet...
Vernis sélectif.
Voilà, ce petit vernis sélectif très sympathique. Et en plus, ils nous ont fait le plaisir de nous donner une édition au format un peu plus grand qu'un manga classique. Donc, on va être plus sur le format d'une édition de webtoon, un peu, dont on a l'habitude quand on voit... Ouais, c'est ça, à peu près, ça fait ça. Donc pour moi, en bref, Allegoria, c'est un manga français qui est captivant, c'est post-apo dystopique un peu, ça va parler de politique, on va sentir liberté, caste et rébellion qui vont se mélanger un peu dans tout ça. Et donc franchement, c'est une œuvre qui mérite d'être découverte. Donc du coup, faut pas hésiter à y aller pour pousser un peu nos auteurs français. C'est plutôt sympa de voir ça sortir. Donc pour l'instant, il y a 2 tomes qui sont disponibles. Donc c'est aux éditions Keep on Dream et c'est au scénario et au dessin Charlotte Joriot. Et ce n'est pas un service de presse du coup, puisque comme je disais, c'était suite à un financement participatif.
Tu l'as payé avec tes propres deniers.
Exactement. Et du coup, d'ailleurs, le tome est à 10 euros pour 234 pages.
Voilà. Ça va.
Ouais, ça va, c'est raisonnable.
Écoute, merci Fabien pour cette sympathique chronique. Je voulais vous parler de Beat and Motion que je vais garder pour dans 15 jours puisque je pourrais faire un petit pied de nez à Bruno. Ça parle un tout petit peu de rock mais pas trop. Et je vais finir avec un truc un peu léger qui s'appelle Love Bullet. C'est de Aini, je suis pas sûr de le prononcer comme ça. C'est publié aux éditions Vega dans l'axe collection Seinen. Vous pitchez le truc, est très simple. Quand un individu meurt sans avoir connu l'amour, souvent les jeunes ou les enfants, ils sont recueillis par la déesse de l'amour pour en faire des cupidons. Et ces cupidons, les équipes d'arc et de flèches, et puis leur particularité, c'est qu'ils vont prendre ces petits arcs et ces petites flèches, aller tirer dans des gens pour qu'ils deviennent amoureux l'un de l'autre. Bon, ça c'est un peu chiant, donc du coup on s'est dit qu'à notre époque on allait moderniser un peu les cupidons, on va leur filer des flingues. Et du coup on suit un groupe de 4 cupidons au tout départ qui sont en train de discuter de comment résoudre un triangle amoureux. Et plutôt que de résoudre ça de manière amiable et simple, ils vont se faire un gros gunfight et c'est l'équipe gagnante qui pourra choisir l'amoureux qui va pouvoir correspondre sur ce triangle amoureux. Sachant que, je dis, on leur a filé des flingues, mais il existe aussi des grenades, il existe aussi des sulfateuses, voilà. Ça, c'est le pitch de départ. Mais puis, on va se focusser sur un des personnages qui est un jeune Cupidon. Elle est plutôt en stage avec ses 3 autres camarades. Et on se rend compte que c'était une jeune fille qui était très à l'écoute de tous ses camarades et elle était capable de dire « Tu te rends pas compte que machin, il est plutôt amoureux de toi ?» ou ce genre de choses. Sauf que personne, elle se rendait pas compte qu'elle pouvait être amoureuse. Et un jour, quelqu'un lui fera une déclaration. Ce sera le jour où le destin aura choisi de lui faire tomber une poutre en acier en plein milieu du visage, faisant d'elle un cupidon. Et pour sa toute première mission, on va lui confier le soin de trouver à la personne qui s'est déclarée à elle un véritable amour. Ça propose un petit truc, un petit twist, puisque elle est devenue Cupidon, elle a toujours le même âge, sauf qu'il s'est passé quelques années avant qu'elle puisse réintégrer et réinteragir avec notre réalité. Au départ, j'ai trouvé ça complètement barré, parce qu'effectivement, des Cupidons qui se tirent dessus alors qu'ils se balancent des grenades. Alors, tout explose en faisant des formes de cœur. Hein. Les impacts de balles, ils font des formes de cœur aussi. Hein. Ça, c'est juste complètement terrible. Et en fait, il y a plein d'émotions qui arrivent derrière. Comment une des personnes qui t'a le plus aimé au monde, tu peux l'envoyer dans les bras de quelqu'un d'autre parce que tu peux plus rien pour elle. C'est complètement, c'est difficile en fait comme thématique. Et c'est fait de manière assez touchante. Et c'est fait aussi de manière assez simple. C'est pas abusé. Il y a pas de problème de genre non plus. Là, c'est pas juste garçon-fille. Donc voilà. J'ai pas des masses de temps, je vais pas pouvoir en parler beaucoup plus, mais ça a été un très bon moment, c'est vraiment très sympa, c'est loufoque au départ, c'est plein d'émotions sur la fin et c'est touchant, et c'est vraiment très cool, le dessin est très sympathique, il est pas révolutionnaire, mais les designs des cupidons sont très cool, donc rien que pour ça, ça vaut le coup, c'est très éclairé, là où Allegoria était beaucoup plus dark, mais ouais, allez-y, ça vaut le coup, vous passerez pas un mauvais moment. Love Bullet, c'est de Aini, c'est publié aux éditions Vega dans la collection Seinen. Je redirai peut-être quelques mots de manière un peu plus poussée, parce que j'ai vraiment torché le truc là, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Il va être l'heure qu'on s'arrête. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci encore Benoît d'avoir partagé cette émission avec nous.
Merci à toi, merci à toute l'équipe.
Merci à toi de venir.
Merci toujours Fabien agréable d'avoir été fidèle au poste. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Et puis on se retrouve dans 15 jours. Et puis en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Eh ben vous avez de la chance parce que moi j'ai appris à lire. Ben je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi. But it was so-